c'est après sa mort plutôt que je me suis rendu compte de ce que ça pouvait créer, toutes les agressions quotidiennes en fait, et l'impact sur sa santé mentale. Et voilà, enfin pour moi, c'est vrai que c'était quelqu'un qui paraissait très 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 forte, et elle est très forte. Enfin, et en tout cas, elle dégageait cette grande force et cette, elle avait toujours la tête haute, une attitude quand elle marchait. Et c'est ce qu'on beaucoup de gens retiennent ça d'elle aussi.
Bonjour à tous, je suis Diego et bienvenue au Lobby, le podcast queer de Radio Campus Paris. Bon, je vous avoue, j'ai manqué de mots pour commencer cet épisode. Comment sortons de la sidération? Par quoi on commence quand on veut parler de la disparition de nos Adelphes? Lexi Agresti, du compte Instagram Agressively Trans, apporte une réponse dans la préface du livre que nous allons présenter aujourd'hui. Nos vies entrent encore doucement dans le faisceau conscient des expériences humaines, et la fraîcheur de notre présence, pour une majorité, nécessite que le témoignage existe, continue d'exister, et convainque l'immense diversité de ce que trans fait vivre, du beau au plus tragique. C'est à travers le témoignage que notre invitée Pauline Chiron honore la mémoire de sa sœur Sacha qui s'est suicidée en 2021. Son ouvrage « Pour Sacha », paru en février de cette année aux éditions Libertalia, se présente comme une archive absolument nécessaire, celle de la vie d'une jeune femme trans, passionnée de mode, aux multiples références musicales, cinématographiques, d'une grande élégance et d'une fidélité amicale sans faille. Plonger dans ce témoignage, c'est peut-être un peu se lier d'amitié avec Sacha, s'enthousiasmer avec elle et partager sa douleur et celle de ses proches. Mais c'est avant tout se rappeler que oui, la transphobie tue et qu'on n'arrêtera jamais d'en parler. Bonjour Pauline Chiron et bienvenue dans le Lobby.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Pour Sacha, c'est une archive tendre de la vie de ta sœur. On y trouve des bouts de conversation, des extraits de posts Instagram, des photos d'elle. Est-ce que tu peux nous raconter comment s'est déroulé le processus d'écriture et comment a-t-il pu accompagner ton deuil?
Alors, ce processus d'écriture, il est né peu de temps après son décès. J'ai eu vraiment le besoin d'archiver sa mémoire, de garder toutes les traces que je pouvais d'elle pour un peu la garder vivante. Et du coup, j'ai commencé par récolter toutes les traces que je pouvais avoir d'elle à travers les textes qu'elle avait publiés sur son compte Instagram ou qu'elle m'avait partagé, les traces que j'avais à travers mes souvenirs et à travers aussi les extraits d'un podcast qu'on avait commencé ensemble mais dont on n'était pas allé au bout. Et donc, il me restait seulement les enregistrements d'elle qui raconte son rapport au genre dans l'enfance ou sa transition. Et ensuite, j'ai eu besoin d'aller chercher aussi des traces à travers les témoignages de ses amis et des proches pour pouvoir dresser un portrait plus complet d'elle et avoir un maximum de traces d'elle.
Dans ce livre, du coup, il est question vraiment de retracer le parcours trans, mais avant tout de lui rendre hommage. En tout cas, c'est ce qu'on ressent. Comprendre qui elle était et ce qui l'animait. Et une des choses qu'on découvre sur elle, c'est sa passion pour la mode, pour les shootings photos, pour les tutos maquillage. Et elle en parle aussi avec ses amis, donc en tout cas c'est ce que tu racontes. Et elle le lie beaucoup à son identité, sa féminité, son identité, c'est vraiment lié à sa passion pour la mode. Et elle en parle dans un podcast de son amie Coralie, donc le podcast s'appelle « Des modes et des moods » et on l'écoute.
La première fois que je me suis sentie femme, c'est dans le miroir, mais quand j'étais très jeune.
Ouais.
Je savais pas vraiment ce que c'était la définition d'une femme, mais en tout cas, j'adorais mon corps, j'avais un corps d'enfant, tu vois, mais très androgyne et juvénile, tu vois. Et c'est à ce moment-là où je me regardais et j'étais fascinée par la féminité que je pouvais dégager, par les courbes, tu vois, de mon corps et tout. Et vraiment, je me sentais bien.
C'est un très joli extrait sur l'euphorie de genre. J'ai eu envie de te demander si toi aussi, tu avais un souvenir d'une joie trans de Sacha.
Je pense tout de suite à nos jeux dans l'enfance où moi non plus, je ne me posais pas vraiment de questions sur son genre. Mais des moments de danse, beaucoup, dans la maison où on mettait la musique à fond... Beaucoup Amel Bent, Ma philosophie, mais pas que, mais cette chanson particulièrement. J'ai beaucoup de souvenirs avec ça. Et Voilà, enfin, on dansait dans la maison et je pense qu'elle se sentait elle-même à ce moment-là. Mais voilà, c'est plus a posteriori que je me dis que c'était des moments d'euphorie de genre. Sur le moment, je me rendais pas compte. Et après, je pense d'autres moments où j'ai pu la voir quand on était en colocation ensemble à Rennes et où elle commençait sa transition sociale, à se sentir bien avec les vêtements qu'elle choisissait vraiment de porter. Et ces moments-là, ouais.
Dans ce podcast, elle adresse aussi des mots très beaux à votre mère en parlant de l'admiration qu'elle a pour elle et à quel point ça a été un modèle. C'était quoi le rapport de Sacha à vos parents ?
Eh ben, il a été... je pense qu'elle était très très proche de ma maman quand elle était petite. Avec mon frère, on se disait un peu que c'était la chouchou de la famille. Mais voilà, c'était gentil, quoi. Et après, je pense qu'il y a eu beaucoup de... Au moment du collège, où Sacha était en souffrance par rapport au harcèlement qu'elle pouvait subir au collège et où elle n'en parlait pas forcément. Peut-être qu'elle n'avait pas forcément de mots à mettre dessus. Et il y a eu un fossé qui s'est un peu creusé entre elle et les parents. Voilà, il y a eu beaucoup de mécompréhension. Et au moment où ils ont appris pour sa transition, donc ça ne s'est pas fait dans des circonstances du tout idéales, enfin même acceptables, parce que du coup elle a été outée par donc la directrice de son école de mode auprès de mes parents. Et donc ils l'ont appris de cette manière-là, mais à partir du moment où ils l'ont appris et où la communication s'est rétablie entre eux et Sacha, s'est établie sur ce sujet-là, ils ont été très accompagnants et du coup leur lien s'est plutôt renforcé à ce moment-là. Ils ont été des soutiens.
On reviendra tout à l'heure du coup sur cette vraiment le outing absolument intolérable qui s'est passé donc dans son école de mode. Mais du coup, par rapport à votre relation à vous deux, est-ce que toi du coup t'étais en confidente par rapport à sa transidentité ou à son à ses questionnements sur son identité assez tôt ?
Elle m'en a parlé. À partir du moment où elle était en terminale, enfin à la fin de son année de terminale. Et après, j'étais du coup au courant des étapes de sa transition, et comme j'habitais avec elle à ce moment-là à Rennes. Et on parlait du fait que ça pouvait être important d'en parler aux parents, mais c'était pas facile. Elle avait quand même peur de qu'ils comprennent pas, ou voilà. Et du coup, à ce moment-là, on discutait et elle me parlait de faire une lettre, par exemple, mais elle n'était pas sûre de vouloir faire ça. Elle trouvait que c'était quand même assez lourd et très solennel de faire une lettre. Et peut-être qu'elle voulait aussi juste les mettre devant le fait accompli et qu'ils acceptent. Et voilà, finalement, ce moment a été volé, mais elle était en chemin pour le faire.
D'ailleurs, la lettre, au final, elle a été envoyée et vos parents ont chacun répondu avec une lettre, il me semble. Et en fait, ça, c'est aussi un merveilleux moyen de poser les choses sur le papier et de faire passer pas mal de choses, surtout aux parents. Enfin, voilà. En tout cas, la lettre est très belle. Dans le livre, on sent aussi que dans les conversations que tu as avec Sacha, que vous vous enrichissez l'une l'autre, notamment au sujet du féminisme, là où toi, t'essayais de t'émanciper des codes dits féminins, elle, justement, elle essayait de se rapprocher d'une féminité. Et donc, c'est quoi le regard que tu as sur ces conversations-là ?
Je trouve que ça m'a apporté beaucoup, ces conversations-là, sortir d'une vision du féminisme peut-être un peu réductrice et du coup je trouvais ça vraiment une grande chance de l'avoir auprès de moi et d'avoir ces discussions-là, ouais, vraiment.
Dans la vie de Sacha, il y a aussi ses amitiés qui prennent beaucoup de place. Tu l'as dit, la collecte de souvenirs s'est aussi passée par le fait de contacter ses amis. On a l'impression que en fait, chaque petit bout du livre permet de retracer la vie de Sacha. Et c'est un ouvrage presque collectif. C'est comme ça que tu le voulais ? Est-ce que c'était dès le début une idée ?
J'ai trouvé ça vraiment important que ce soit collectif. Et en effet, pour moi, c'était très important que ses amis aient une place dans... Parce qu'elles avaient quand même une grande place dans sa vie, donc c'était important. Voilà. Puis après, ce projet, il a été collectif tout du long avec ses témoignages, avec le fait de le faire relire par des amis à moi plus tard et le fait de passer par une maison d'édition aussi. Enfin, le fait que ce travail soit collectif, c'était important pour moi de ne pas porter ça toute seule aussi et de partager ça avec d'autres. Et donc vraiment, oui, très important que ce soit collectif.
Un autre passage, donc plus sur la famille, mais qui m'a vraiment touchée, c'est le témoignage de votre grand-mère, donc Geneviève, qui, lorsqu'elle apprend la transition de Sacha, a une réaction absolument géniale. Elle dit « J'ai appris pour Sacha, alors on ne dit plus son dead name. Je trouve qu'elle a du courage. Désormais, elle sera ma petite fille et je l'appellerai Sacha. Voilà. » Donc, est-ce que vous étiez surprise, toi, comme Sacha, de cette réaction ?
C'est une grand-mère qui est vraiment géniale et qui est... J'avais pas forcément d'attente vis-à-vis de sa réaction. Mais c'était une belle réaction. Et même maintenant, voilà, là, elle a lu le livre et elle me soutient toujours dans cette démarche et tout. Et c'est très important pour moi. Voilà, c'est un grand soutien.
Le lobby. Tous les vendredis à 14h en DAB+, sur Radio Campus Paris.
Le coming out de Sacha a été volé, puisqu'il a été outé par son école. Est-ce que tu peux raconter ce moment et les conséquences, mais aussi a posteriori, comment l'école ensuite a reconnu les faits, ce qui s'est passé.
Elle est rentrée dans cette école de mode en 2018 et en 2019, elle a commencé à... Fin 2018, mais surtout en 2019, elle a commencé à demander à ce qu'on l'appelle Sacha, à ce qu'on la genre au féminin, ce qui n'était pas le cas à son arrivée à l'école. Et voilà, pour l'administration, au début, ils ont dit d'accord... même si ça leur semblait compliqué, quoi. Et finalement, il y a eu plusieurs professeurs qui ont mégenré Sacha et qui ne voulaient pas l'appeler par son prénom. Et ça peut paraître très étonnant dans le milieu de la mode qui pourrait... Enfin, on pourrait penser que c'est un milieu très ouvert et finalement, non. Elle subissait cela à travers les cours. Et il y a eu un moment où les parents ont été convoqués par l'école pour problème de comportement. Il se trouvait qu'à ce moment-là, elle était un peu en décrochage, elle n'avait pas forcément des bons résultats et tout. Sacha les a vus arriver. Enfin, elle était au courant qu'ils allaient venir, mais elle ne savait pas quand. Et du coup, là, elle a demandé aux personnes de l'administration de surtout pas dire qu'elle s'appelait Sacha. Là, ça a un peu exaspéré les gens de l'administration qui faisaient vraiment aucun effort. Et du coup, il y a eu une réunion où Sacha n'était pas présente. Sacha est partie de l'école et mes parents ont été reçus. La directrice leur a dit « Voilà, j'ai quelque chose à vous annoncer, vous allez tomber des nues, quoi. » Et du coup, elle leur a annoncé. Mais voilà, pour mes parents, le plus grave, c'était surtout que Sacha soit partie comme ça. Ils avaient très peur pour elle, ses amis aussi. Donc, elle a été recherchée par ses amis qui l'ont retrouvée. Elle a pu avoir du soutien, même si c'était très compliqué. Et elle l'a vraiment vécu comme une trahison. Ça aurait pu être une mise en danger, même si mes parents ont été surtout inquiets de qu'elle coupe les ponts avec eux. Et voilà, enfin, inquiets qu'elle soit si mal. Et donc, par la suite, après son décès, ma mère avait vraiment cet épisode en tête et elle voulait que l'école soit aussi au courant de la gravité de ce qu'ils avaient pu créer, quoi. Et que ça aurait pu être très dangereux avec une famille qui rejette son enfant. Et donc, elle est retournée les voir elle leur a parlé du fait que c'était important de former les équipes via des associations. Et depuis, je crois qu'elle n'a pas forcément eu de nouvelles de ce qui se passe à Rennes. Et nous, on est à Nantes. Mais voilà, j'espère que l'école a pris de ses erreurs et maintenant met en place des choses pour à mieux accueillir les élèves trans.
Le livre, il aborde aussi d'autres moments d'une grande violence, les agressions dont Sacha est victime, mais également la transphobie dans le milieu psychiatrique, lorsqu'elle est transférée au centre d'urgence psy. Quel est ton point de vue sur sa prise en charge ?
C'est clair que ça l'a vraiment pas aidée. Donc, un point de vue plutôt très très critique. J'ai pas beaucoup d'autres expériences de ce milieu-là, donc ça reste une expérience qui est marquée par celle de Sacha et donc qui est très négative. Mais en effet, elle est tombée sur une psychiatre qui l'a vraiment pas aidée à un moment où elle avait vraiment besoin d'aide. Elle a très mal vécu le fait d'être sous contrainte, enfermée. Et il y a eu des choses qu'ont pu entendre mes parents quand ils passaient, qui étaient très discriminants envers elle. Et donc, un point de vue très critique et aussi un constat du manque de moyens qu'a l'hôpital et donc du fait que ce soit vraiment... un personnel qui a l'air vraiment exaspéré et sous tension et un lieu qui est vraiment pas accueillant, enfin où on se demande en quoi ce lieu fait que les personnes peuvent aller mieux derrière, quoi.
Prêt à sortir dans le monde réel ? Tu vas affronter le regard des autres, alors tout doit être parfait. Si tu veux rentrer sain et sauf chez toi ce soir, personne ne doit savoir que tu es trans. Ils doivent croire que tu es un homme cisgenre hétéro. Compris ? On va commencer par ton apparence. Choisis soigneusement ta tenue. Pas trop moulante pour qu'on ne voit pas que tu n'as rien entre les jambes. Pas trop colorée non plus pour se fondre dans la grisaille de la ville. Être invisible, invisible, c'est uniquement comme ça qu'ils acceptent les trans. Quand ils se fondent dans la masse, quand on oublie qu'ils existent. Adopte leur posture, écarte les jambes. Encore, fais de grands pas, parle fort, force toujours le passage. Sache que tu domines, mine de rien, tu t'en sors plutôt bien. Bien sûr que tu fais semblant, sans blague, t'aimes les blagues, pour eux c'est ce que tu es. Alors range tes talons et efface-moi ce maquillage. Non, je déconne, mon pote.
J'ai eu envie de te faire écouter cette interlude de l'album Tonnerre et pluie de l'artiste Holo Kid, car il fait écho à un témoignage de Sacha enregistré dans un film réalisé par son amie Morgane lors d'une soirée photoshoot. On y entend Sacha parler de l'attitude qu'elle adopte, la tête haute fière dans la rue pour ne pas se faire emmerder. On sent une force, en fait c'est presque féroce. Et donc c'était quoi pour toi la force de Sacha ?
Beaucoup beaucoup de force. C'est vrai qu'on était beaucoup à l'avoir comme quelqu'un de très très fort qui dit qu'elle ne voit pas les gens qui l'insultent dans la rue. Maintenant, c'est après sa mort plutôt que je me suis rendu compte de ce que ça pouvait créer, toutes les agressions quotidiennes en fait et l'impact sur sa santé mentale. Pour moi, c'est vrai que c'était quelqu'un qui paraissait très 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 forte, et elle est très forte. En tout cas, elle dégageait cette grande force et cette. Elle avait toujours la tête haute, une attitude quand elle marchait. C'est ce qu'ont beaucoup de gens retiennent ça d'elle aussi. Ouais.
Le parcours de ta famille sur l'accompagnement de Sacha et ensuite le deuil vous fait croiser des personnes assez différentes. Il y a la militante trans du coup Lexi du compte Instagram Aggressively Trans, mais également le street artiste Dex du compte Insta Dex Écrable. Est-ce que tu peux nous raconter les rôles que ces personnes ont eu auprès de vous ?
Des rôles très importants. Ça a été vraiment des soutiens. Pour ce qui est de Dex, il nous a permis d'honorer sa mémoire et de visibiliser sa mémoire à travers donc une fresque à Nantes qui a été peinte collectivement Et donc c'était un moment où nous on avait beaucoup de colère, et donc de pouvoir exprimer cette colère à travers des actions politiques, c'était très très important, et de se retrouver collectivement et de se soutenir et de parler de sa mort, enfin de pas laisser le silence se faire, c'était vraiment très très important. Et pour ce qui est de Lexi, elle a été vraiment aussi très importante à travers le poste qu'elle a pu faire aussi pour ne pas laisser le silence se faire sur la mort de Sacha, en parler, dénoncer et lui rendre hommage. Et après, elle a été aussi très accueillante avec ses parents, qui nous ont accueillis lors des marches à Paris quand on est venu et qu'on ne connaissait pas forcément grand monde. Et par la suite, quand je lui ai parlé du projet de livre, elle m'a soutenue, elle m'a aidée à chercher une maison d'édition. Puis après, elle a écrit cette préface. Et pour moi, c'est un énorme soutien, quoi. Vraiment, merci à elle.
Et notamment, du coup, dans ce besoin d'engagement militant, il y a eu du coup ta mère qui s'est aussi engagée dans de la prévention, de l'information au sein de l'association Contact 44. Comment ça s'est fait, du coup, pour elle, cet engagement militant?
Ça s'est fait assez vite. Elle a tout de suite eu besoin d'être dans l'action pour ne pas rester sans rien faire et continuer à agir. Elle a trouvé cet asso et elle s'est trouvée à sa place dans cet asso, étant donné que c'est une asso qui travaille à restaurer ou à créer du lien dans les familles où il y a des personnes LGBT. Et donc elle, en tant que parent, dans ce rôle-là, elle s'est trouvée à sa place. Et donc voilà, maintenant, c'est très important pour elle. Elle continue de faire des interventions en milieu scolaire, beaucoup, des groupes de parole. Ouais.
Et j'ai l'impression que ton livre, c'est aussi un acte militant. Et en le refermant, ça donne envie de le donner à n'importe qui et de le faire lire, parce qu'en fait, c'est trop important, c'est d'utilité publique. Et du coup, je me demandais comment est-ce qu'on peut raconter ce livre, par exemple, pour qu'il puisse être dans des médiathèques ou dans des CDI au lycée. Comment est-ce qu'on peut peut-être toucher des profs, des parents comment est-ce que tu raconterais ce livre pour faire ça?
Peut-être tout simplement de dire que par le biais d'une histoire, on peut comprendre des enjeux et des questions qui parfois, juste théoriquement, peuvent être loin de nous. Et donc ça peut sensibiliser un public très large, parce que c'est à travers l'histoire de Sacha qu'on peut se figurer des enjeux, même si le parcours de chaque personne est différent. Mais voilà, je pense que c'est par ce biais-là.
J'ai du gloss sur les lèvres, mascara sur la moustache. Je fais jamais grève de style, non, et ça les fâche. C'est pas bon de vanter, mais faut avouer que dans le quartier, je suis le seul mec qui n'a pas peur d'être BG. Je porte des survêtements cause à like et de la dentelle sous mes Nike. Et j'ai l'ego si gonflé que mon binder va craquer. What? Les gens me fixent comme des snipers, du coup je la joue stripper. Traite pas de fou, I'll keep walking. Walk, 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 walking. Walk, 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 walking. I keep walking. Walk, 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 walking. Walk, 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 walking. I keep walking. J'ai pas le temps pour vos caprices. Tant pis si mon liner vous hérisse. Prenez-moi de haut juste pour voir mes talons aiguilles dans vos mâchoires.
Merci beaucoup Pauline Chiron d'être venue dans le lobby. Je rappelle que ton ouvrage Pour Sacha, la transphobie tue est sorti en février dernier aux éditions Libertalia. Toutes les références citées dans l'émission sont à retrouver sur radiocampusparis.org à la page de l'émission. Cet épisode a été présenté par Diego et réalisé par Colin. Vous pouvez retrouver tous les épisodes du lobby sur vos applications de podcast. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre des étoiles, c'est une façon efficace de soutenir notre travail. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, vous pouvez nous suivre sur Instagram @lelobbyrcp. À bientôt. De
folle de PDO. Toi, je sens que tu vas me briser les ovaires, frérot. Faut que tu changes tes amis, poto. Ça se voit que t'as du mal à t'aimer, toi, mais m'amène, c'est chaud. Laisse-moi te tenir à peu près ce langage. Rien à foutre, car moi, j'essaye pas de tout. Crache pas ton somme sur ma route. Bien trop guéri, bien trop cute. Bois mes rêves, c'est ton casse-croûte. Et si t'as peur de mon swing, t'inquiète, j'ai toute une communauté qui va t'apprendre à keep walking. Qui a dit que je voulais vous ressembler? Messieurs, je vais vous rappeler les termes. Je ne veux même pas de M sur mes papiers. Tant pis si ça fâche le système. I keep walking. Talons aiguilles dans vos mâchoires.